J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs qui vous proposent ce nouveau numéro sur la fréquence de la paix. Le médecin de la RDC sont en grève radicalisée sur toute l'étendue de la République depuis quelques semaines maintenant. Ils ne sont pas satisfaits des réponses du gouvernement par rapport à leurs revendications. Entre-temps, les magistrats ont arraché, après négociation avec le gouvernement, un nouveau barème salarial. Certains observateurs estiment que l'État congolais devrait plutôt résoudre globalement les différentes revendications sociales dans tous les secteurs pour éviter les grognes à répétition. Alors, qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats ici au pays et à l'étranger. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jocelyne Mukendi et Sylvain Matundu concourent à la production de cette émission. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir également en ligne Bonnie Mundiandambou, qui est psychologue du travail. Vous êtes avec nous, Bonnie, spécialiste en psychologie du travail. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci, J.R.
Voilà, alors d'entrée des jeux, comment faire pour éviter des grognes à répétition? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que faute d'une politique globale, que le gouvernement n'arrive pas à résoudre le problème des grognes sociales?
Oui, Monsieur Gier, en tout cas, merci d'abord. Vraiment, je suis très content que vous pensiez à moi pour examiner cette question de salaire ou de rémunération qui se pose, qui se présente vraiment dans notre pays, presque dans tous les secteurs. Avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, j'aimerais d'abord vous signifier que en RDC, il y a absence totale. Il n'existe pas une politique salariale en la matière. Je crois que je suis passé maintes fois chez vous là-bas, toujours sur le plateau. Et nous avons examiné avec vous cette question, et je crois que ça fait déjà peut-être une année passée, et vous avez dit que si le gouvernement congolais ne traitait pas cette question avec beaucoup de sérieux, nous allons vivre. Aujourd'hui, comme vous avez dit, ce sont les médecins qui sont partis, les magistrats venaient d'arracher quelque chose, mais dans certains domaines, ça sera le tour des enseignants, et après les enseignants, c'est une autre catégorie sociale, des travailleurs plutôt, qui va se lancer dans la rue, juste pour réclamer le salaire. Eh bien, monsieur Hier, du fait qu'il n'existe pas une politique nationale, le gouvernement pense résoudre les problèmes de manière sectorielle. Et ça, c'est inconcevable. Ça ne peut jamais se faire ainsi. La question de la rémunération pour les travailleurs dans un pays comme la RDC doit être résolue de manière globale en se référant à la politique. Si la politique salariale n'existait pas, il faut nécessairement commencer par la mise en place d'une politique nationale en matière de la rémunération de salariés dans notre pays. Ça, c'est la première des choses, à mon avis, que je pense qui peut nous aider aussi le gouvernement, tous ceux les décideurs. Cette politique sera comme une référence, un référentiel. On doit toujours se référer à cela pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans cette politique-là, je pense à la requalification des emplois. À la requalification des emplois, par là, je m'aurais tout simplement dit qu'il faut échelonner les emplois. Il faut échelonner les emplois, attribuer des codes. Pour dire, par exemple, un exemple plus simple, je dis, nous partons du directeur au huissier. Là, on a échelonné les emplois, on sait que le directeur en RDC va toucher autant selon les secteurs respectifs. Mais dans notre pays, nous sommes, on peut être dans un même secteur, et vous allez voir que le directeur qui est ici à Kinshasa, touche plus. Alors ils sont dans les mêmes secteurs et celui qui se retrouve par exemple dans les Congo ou dans les Bilou touche moins. Mm-hmm. Alors qu'ils sont dans les mêmes secteurs, au besoin même dans le même service. C'est inconcevable, c'est inimaginable, ça ne peut jamais se faire comme ça. C'est comme ça que je pense que dans cette politique, il faut quelque part réqualifier les emplois. Mm-hmm. On réqualifie les emplois et trouver aussi les équivalents de ces de on sait que dans ce secteur, si nous sommes par exemple à la fonction publique, c'est les directeurs. Voici les grades du directeur. Les correspondants du directeur à la fonction publique, nous sommes maintenant à la police, nous sommes maintenant dans l'armée. Nous sommes dans tel service, ainsi de suite.
Tout à fait.
Quel est l'équivalent du grade du directeur dans tel ou tel service? Mmh. Et c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Mmh. Et de cette façon-là, nous allons résoudre non pas seulement les problèmes au niveau du monde du travail, nous allons résoudre les problèmes même au niveau de l'enseignement. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. Les jeunes gens ont tendance à se diriger dans une des facultés parce qu'ils se disent à la fin je serai mieux servi, je serai bien traité, au détriment d'autres orientations, d'autres options, alors que le pays a grandement besoin aussi de services.
D'autres filières. Parce que quand vous allez aujourd'hui à l'IPN, par exemple, vous verrez dans la filière orientation sociale, scolaire, il n'y a plus d'étudiants. Parce que finalement, on dit, bon, ça n'attire pas, il n'y a pas des modèles.
Pourquoi? C'est ce que je dis, pourquoi? Pourquoi les jeunes gens fuient là-bas? Parce qu'ils savent que non, à la sortie, une fois terminée l'information, il n'y a rien comme salaire. C'est déjà dès le départ, en amont, le gouvernement a mis en place une politique. On sait très bien réqualifier les emplois et chacun soit, si je m'engage dans telle option, je ferai tel grade et voici l'équivalent dans tel secteur, voici l'équivalent dans tel autre secteur et voici ce qui est fixé pour le grade directeur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. Ce n'est pas dans notre pays. Le gouvernement pense résoudre, je ne dirais pas le gouvernement, les décideurs pensent résoudre cette question de manière sectorielle. Et c'est comme ça que les décisions sont inefficaces. Ils résolvent ça aujourd'hui et demain, ce sont les enseignants qui reviennent. Voilà un peu ce que je peux vous dire, monsieur Julien, par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des médecins, des magistrats, demain, ce sera les tours des travailleurs qui sont régis par les codes du travail, ainsi de suite. Donc, je crois que quelque part, là, pour être beaucoup plus encore efficace, cette question doit être débattue.
Voilà. Alors, il y a quelqu'un, il y a un auditeur qui a écrit, hein, je ne sais pas si, qui vous suit d'ailleurs, qui a réagi tout de suite sur www.radiocapi.net. Il dit, c'est vrai ce que dit notre invité, ce qui explique d'ailleurs l'absence totale d'une politique salariale, le fait que le chef de l'État lui-même ne reconnaît pas, ne sait pas exactement combien il touche.
Écoutez, il ne faut pas que vous m'amenez dans ce domaine-là pour que je ne sois pas pour chasser. Parce qu'aujourd'hui, on chasse tout le monde. Moi, je ne parle pas du chef de l'État.
Non, parce que c'est une réalité. Le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Quand il n'y a pas une politique, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire ça date de très longtemps. Nous avons vu des syndicalistes, même à l'époque de Mobutu, revendiquer, manifester des grondes sociales. C'est que l'absence de la politique sociale et la politique salariale, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai dit. Quelque part, les législateurs congolais a failli. Au lieu de nous amener des projets de loi qui divisent, au lieu de nous amener des projets de loi qui peuvent encore créer des divisions, des conflits dans notre pays, il faut amener des projets de loi.
Des projets de loi, par exemple, sur la réqualification des emplois, comme vous les proposez.
Oui. Non, moi je vous propose ceci. Cette question.
La révision du Code du travail.
Pardon?
La révision, par exemple, du Code du travail.
Exactement. On doit revoir le code du travail, les dispositions du code du travail, pas seulement ça, mais cette question n'est pas seulement, ne concerne pas simplement le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Il est question de la politique nationale en matière de salaires. Cette question est multisectorielle, il faut un cadre permanent de dialogue social, que nous appelons CPDES. CPDES où il y a la tripartite. Nous avons le gouvernement, nous avons les employeurs et nous avons aussi les travailleurs qui doivent être là. Et du côté du gouvernement, il faut penser cette fois-là comme vous l'avez évoqué, au ministère de l'Emploi, au ministère des Budgets, au ministère des Finances, au ministère de l'Économie. Je peux que citer d'abord ces ministères-là.
Merci.
Qui doivent être présents pour discuter de la question.
de manière permanente dans ce cadre-là du concertage.
C'est une question fondamentale, c'est une question sensible, c'est une question qui touche au social du Congolais. Monsieur Julien, savez-vous aujourd'hui que nous avons 5 fonctionnaires, pour parler des fonctionnaires congolais, qui touchent 50 000 francs congolais, qui représentent 25 dollars aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire avec 25 dollars? C'est un parent, il a des enfants. Et quelque part, c'est le gouvernement qui est responsable. Qui est responsable de l'irresponsabilité de ses parents. Ses parents ont perdu son pouvoir. À la maison, il ne sait plus contrôler ses enfants. Il n'a plus le pouvoir, il n'a plus de considération. Bref, il faut impérativement, M. JR, pour qu'il y ait paix sociale dans ce pays, il faut commencer par une politique générale et globale, bien que multisectorielle, voilà. Multisectorielle en matière de salaire dans ce pays.
Merci beaucoup.
Recadrer la chose, requalifier les emplois, comme ça je saurais, même si je suis directeur, je peux rester chez moi au fin fond du Kwango, je peux rester chez moi au fin fond du Kwilu, je peux rester chez moi au fin fond du Congo central, ainsi de suite. Par le fait que je suis directeur, je vais toucher le même salaire que ce directeur qui est à Kinshasa.
Merci beaucoup, Monsieur Boni Mudiandambou. Nous rappelons que vous êtes expert en psychologie du travail. Exactement. Et là, vous insistez sur la réqualification des emplois qui pourrait nous amener également à réfléchir sur la révision du code du travail afin de pouvoir organiser de manière permanente les cadres permanents du dialogue social. Ça nous apporterait la paix sociale et ça nous éviterait à tout le temps des grognes sociales à répétition. Merci beaucoup, Boni Mudiandambou. On ne saura pas vous retenir le plus longtemps possible parce que vous avez d'autres charges. Le temps pour nous de poursuivre cette émission avec d'autres auditeurs. Il y a Christian qui nous a rejoint. Christian, vous êtes avec nous. Bonjour, Christian.
Bonjour, Jerry. Bonjour à l'invité.
Vous avez suivi tout à l'heure l'invité. Quelle est votre réaction, Christian? Que faire pour retrouver, recouvrer la paix sociale?
Oui, je crois que dans son intervention, l'invité a également abordé ce que nous également nous avions abordé sur notamment ce que nous avions exposé, posté sur votre page Facebook. Et donc aujourd'hui, j'ai un gros mot. Je crois que sans accorder au terme un sens strictement philosophique, on peut justement voir l'aspect humanisme éthique dans cette conception du monde. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, l'individu, en collaboration avec son prochain, s'efforce justement à faire constamment progresser le bien-être. Et du coup, ce bien-être, Jean Lungembo, est aujourd'hui cristallisé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, on y met aujourd'hui la dignité de la personne humaine comme étant un droit. Et donc, un droit de vivre heureux avec sa famille. Et aujourd'hui, il faudrait bien évidemment que tout ce bien soit justement la subsistance requise pour faciliter tout travailleur congolais. Mais ce qui est curieux, vous verrez que lorsque l'on soulève ce genre de débat, chez nous, tout est question de temps. En fait, chez nous, l'air ne sonne toujours pas. Donc voilà, ce n'est pas encore le moment. Donc voilà, ce n'est pas encore le temps. Tout divise. Vous verrez que lorsqu'on pose ce genre de questions, parce que pour y arriver, la solution serait justement de réduire les trains de vie des institutions, toutes les institutions, les chefs de corps y compris. Mais vous verrez que le même ces gens-là va vous brandir la carte selon laquelle pour dire voilà, écoutez, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment, c'est une question qui divise. Ça, je suis désolé, parce que c'est nous tout divise. Selon l'endroit où on se trouve. Non, je crois qu'à un certain moment...
Donc si je comprends bien, Christian, vous évoquez là la question de l'injustice sociale.
Oui, cette question d'injustice sociale, pour trouver solution à cela, il faudrait justement remédier, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où les politiques, pour bien être rémunérés, il faut être acteur politique, il faut être dans les institutions. Or, pour changer ces paradigmes, il faut tout simplement renverser la tendance. Soit mettre toutes les...
Voilà, c'est pourquoi notre invité a proposé la réqualification des emplois. Êtes-vous d'accord avec lui? Parce qu'il faudrait échelonner les emplois. Qu'un directeur, qu'il soit à Kinshasa ou au Kwango, qu'il sache qu'il touche le même salaire.
Oui, ça c'est l'idéal. Ça c'est ce que nous nous proposons. Moi également, je l'ai dit tantôt que je l'ai évoqué. Donc c'est une bonne chose. Il faudrait requalifier l'emploi. Il faudrait qu'il y ait une, il faudrait vraiment, comme je le dis sur votre page Facebook, il faudrait vraiment uniformiser les salaires et les avantages des agents et fonctionnaires de l'État selon le secteur. Et donc ici, pour bien arriver, je crois que comme le pays n'a pas assez de moyens, il y a d'autres, il y a certains mécanismes qu'il faudrait suivre à la loupe. Notamment, pour moi, je préconiserais que l'on mette en place une certaine dose des politiques d'austérité. Et donc, au-delà de ça, il faudrait également revoir les trains de vie des institutions. Parce que les recettes aujourd'hui, toutes les recettes que produisent le pays aujourd'hui ne servent que tout simplement à alimenter les institutions. Or, merci. Pour arriver à cet état des choses, il faudrait revoir les choses. Mais vous verrez que ceux qui sont dans les institutions vont s'opposer à ça. Et du coup, cela va diviser. Voilà pourquoi moi,
voilà, je dis... Voilà, c'est question du sérieux du côté des législateurs. Merci beaucoup, Christian. On va prendre Jean-Paul qui était, il est beau. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi. C'est Monsieur Jean-Paul à partir de Lebo dans la province du Kassai.
Alors que pensez-vous, après avoir suivi l'invité et votre prédécesseur par rapport à la paix sociale qu'on cherche afin d'éviter les différentes grognes sociales à répétition?
Oui, Monsieur JR, la meilleure façon pour que ce gouvernement puisse d'abord faire d'abord ce qu'il faut, répondre valablement. Il faut tout simplement répondre favorablement aux cris de la population. Et il faut seulement résoudre d'une manière globale les différentes revendications sociales dans tous les secteurs. Et cela va d'abord diminuer même les détournements que nous sommes en train d'abord de se plaindre à tout temps. Et la rigueur dans le travail, et les gens vont travailler avec une conscience, et vous trouverez que la conscience déjà et la rigueur va d'abord avoir sa place dans les différents services. JR, faites d'abord une petite comparaison lorsque vous êtes dans une famille où un bon parent est celui qui traite ses enfants d'une manière normale sans toutefois qu'il y ait une discrimination entre ses enfants.
Tout à fait.
Mais si le parent fait le contraire, vous trouverez que les enfants entre eux-mêmes ne peuvent pas s'aimer et il y aura d'abord émulation et ses enfants peuvent même s'entretuer. Et c'est de cette manière-là. Quand vous parlez d'abord de la justice qu'on ajoute pour les magistrats autant d'argent, oui. Les médecins à leur tour d'abord entrer d'abord de gréver. Et ça sera le tour des enseignants, ça sera le tour déjà de la fonction publique. Vous trouverez que tous les secteurs d'abord de ce pays seront par terre puisque chacun de nous va commencer déjà à avoir d'abord la même procédure que les magistrats et les médecins ont fait. Mmh. Donc nous devons à tout prix pour que le gouvernement puisse penser à répondre favorablement à toutes les revendications sociales dans tous les secteurs, dans toutes les couches, pour que les travailleurs puissent travailler avec conscience, avec rigueur. S'il y a des détournements à tout temps, on détourne l'argent, pourquoi? JR, imaginez-vous, vous êtes un enseignant, vous travaillez directement du 1er au 30, avec un petit salaire dérisoire de 30 000, 20 000 francs, 15 000 francs, 195 000 francs pour un enseignant, par exemple. Et si celui-là se retrouvait dans une opportunité de trouver 350 $, 500 $ qu'il n'a jamais touché d'abord, est-ce qu'il peut d'abord faire face? S'il n'est pas déjà un bon Congolais, s'il n'a pas un sang patriotique, il va s'amener au détournement. Donc,
il
est mis à faire pour que le gouvernement pense correctement à répondre à toutes les revendications sans qu'il y ait discrimination, puisque dans une bonne famille, les papas traitent les enfants d'une manière correcte, sans qu'il y ait discrimination, pour dire celui-là c'est le cadet, il faut privilégier, celui-là d'abord c'est l'aîné, ainsi de suite. Quand vous faites ça, vous trouverez que vos enfants...
Alors Jean-Paul, la proposition de M. Boni tout à l'heure, la proposition de M. Boni de pouvoir, au fait, fiabiliser ou encore donner de la valeur à ce cadre permanent de concertation ou de dialogue social. Est-ce que vous pensez que ça sera une des solutions également? C'est-à-dire que le gouvernement puisse instituer officiellement ce cadre de dialogue entre les différents secteurs de la vie, des catégories sociales.
Oui, la position de Boni est correcte. C'est dans le cadre d'abord des dialogues que nous pouvons bien échanger. Un bon pays, un bon citoyen, ce sont les citoyens qui se mettent sur la table et qui discutent d'abord tout autour d'abord des dialogues. Il faut qu'il y ait d'abord ce cadre-là social pour discuter, pour voir qu'est-ce qui n'avance pas dans nos secteurs d'abord. Partout là, les gens en train de se plaindre. Peut-être à travers les dialogues, on peut d'abord se faire ressortir certaines solutions pour nous permettre déjà à bien travailler, pour nous permettre d'avoir des salaires, puisque nous sommes d'abord dans un pays qui a d'abord des potentiels JR, mais ces potentiels-là ne sont pas déjà au bénéfice des filles et des fils de ce pays.
Merci beaucoup Jean-Paul. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir appelé Dilebo. Alors on va prendre docteur Mami Mujinga Bukasa qui est la présidente de la Ligue des femmes au FCD, je crois. Alors docteur Mami, vous êtes avec nous?
Ah ouais, je suis là.
Voilà, les médecins sont en grève, je vais dire, vous êtes en grève, et avec toutes les conséquences que cela donne. Aujourd'hui, c'est vrai, pour résoudre ces problèmes de grogne sociale à répétition, que pensez-vous que le gouvernement devrait faire?
Bon, le gouvernement, je crois qu'il a hérité des gros problèmes depuis la nuit. Que en ce qui concerne la grève de médecins ou la politique qu'il doit mettre en place, je crois qu'on doit d'abord mettre en place une bonne politique d'engagement. Parce que dans la fonction publique, on ne tient pas compte du nombre, on ne tient pas compte de la capacité, on ne tient compte de rien du tout. Chaque autorité qui vient, chaque ministre qui arrive, il veut engager, sans tenir compte de ce qui existe déjà. Parce que les mêmes revendications, c'est depuis, comme nous les médecins, c'est depuis Mouzitou, qu'on réclame un certain nombre de choses que les gouvernements n'arrivent pas à disponibiliser pour les médecins. Mais depuis, on voit que les médecins qui s'ajoutent, bien sûr, les universités produisent des nouveaux médecins, mais ceux qui sont là ne sont pas encore satisfaits du traitement par rapport à leurs revendications. Alors, la politique d'engagement, d'abord, est très mauvaise. Nous, quand on était engagés, c'était le gouvernement central, donc le secrétaire général qui est engagé. Mais aujourd'hui, nous voyons que tous les ministres provinciaux, dans chaque province, engagent sans tenir compte du gouvernement central. Donc, la province engage, et le gouvernement central n'est même pas informé qu'il y a un médecin engagé dans telle province. Et après, le gouvernement central, il est juste surpris du nombre qui galope chaque fois, mais ces médecins-là ne sont pas...
Donc si je comprends bien, docteur, pour vous, la situation empire...
Au niveau du gouvernement central.
Si je comprends bien, la situation empire et le fait de la décentralisation aujourd'hui.
Voilà.
Il y a un problème, mais la décentralisation en rajoute.
Oui, la décentralisation en rajoute parce que le gouvernement central qui est censé payer ses médecins au niveau des provinces n'est pas informé du nombre qui augmente chaque année et on est surpris qu'il y ait plus de médecins non payés aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Alors que il y a 3 ans, déjà, les ministres du budget à l'époque, il y avait que 2000 ou 3000 médecins non payés, mais aujourd'hui on est au-delà de 10 000 médecins non payés. Pendant que ceux qui a 3 ans ne sont même pas encore alignés et il y a d'autres qui s'ajoutent.
Alors le dernier médecin gagne combien? Nouvelle unité par exemple.
Les médecins internes gagnent 1 155 000 francs.
Équivalent de 800 dollars.
On enlève l'hyper 170 000 francs, vous devez déduire, il reste 900 et quelques mille francs. C'est ce que les médecins gagnent aujourd'hui comme prime des risques.
Donc à peu près 500 dollars, 600?
Non, à peu près 400 et quelques dollars, 470, quelque chose comme ça.
Alors, quand le magistrat atteint déjà 1600.
Mais les salaires du médecin est à 150 000 francs.
À 150 000 francs.
Ça, c'est la prime. 150 000 francs, 155 000 francs pour un interne. Donc, le grade de recrutement, les salaires du médecin.
Voilà.
Alors que dans les statuts spécifiques de médecin, oui, où on a eu à parler avec le gouvernement il y a plusieurs années, c'était que la prime, les traitements de base, qui est les salaires, devaient être la prime multipliée par 4. Mmh. Mais aujourd'hui, la prime est supérieure au traitement de base, ce qui n'est pas normal.
Voilà. Alors nous vous gardons encore en ligne, docteur Mami, il est temps de retrouver Bonnie. Bonnie, vous êtes encore avec nous?
Je suis avec vous, je vous suis.
Voilà, réaction après avoir écouté Christian et Jean-Paul et tout de suite docteur Mami.
Oui, je suis d'accord avec les intervenants. Donc je suis d'accord, je partage vraiment le même avis que les intervenants de tout à l'heure. J'aimerais peut-être ajouter et confirmer appuyer ce qu'ils ont dit, qu'ils venaient de dire. Que ce soit le recrutement, comme madame, le docteur venait de souligner ici. Mais écoutez, ça c'est encore catastrophique. La décentralisation, oui.
Mais le gouvernement central doit connaître ce qui se fait de l'autre côté, au niveau provincial. On doit connaître bien qu'on parle de la décentralisation. Madame a souligné quelque chose là, elle a évoqué quelque chose là vraiment de capital, où chaque décideur, chaque ministre, parce qu'il a combattu dans la course, je ne sais pas où, avec ses militants, et il pense que non, la seule manière de récompenser ses adeptes, à l'entrée d'adeptes, il faut les amener à la fonction publique. Et ce qui fait là que ça pose un problème sur le plan de l'enveloppe salariale. On ne sait pas sans combien et combien on doit payer. Cette façon d'agir a des implications même sur la mécanisation des fonctionnaires, ce qui fait que, ou des agents, ce qui fait que quelqu'un a 10 ans d'expérience de service, mais on continue à l'appeler de nouvelle unité. Nous sommes dans quel pays? Et dans quel monde professionnel? 10 ans d'expérience, nouvelle unité. C'est concevoir qu'en RDC, c'est notre pays. Et nous disons notre cher et beau pays. Mais non, ça ne passe pas. Nous sommes des Congolais. Et il faut revenir à tout ce qui se dit ici. Nous sommes des Congolais. Ce pays nous appartient. Et nous devons tous travailler pour le développement de ce pays. Mais essayez, là, je veux, notre ami qui parlait de la paix sociale, de la justice sociale, les revenus, tout ce que la RDC est en train de bénéficier, de recevoir, de produire. Mais le partage n'est pas équitable. L'injustice sociale, à un niveau tel que, écoutez, un directeur touche moins par rapport à un chef de bureau. Nous avons vécu ça dans ce pays. Un chef de bureau qui construit des immeubles, ce n'est pas qu'il y a la haine ou la jalousie. Non, le chef de bureau construit des immeubles alors qu'un secrétaire général est incapable d'amener son enfant à l'école. Nous sommes dans quel pays?
Parce qu'aujourd'hui,
moi, en tant que scientifique, moi, je suis scientifique. Et c'est là où je vais maintenant corriger. Je suis technicien, je suis scientifique. Je sais ce que je dis. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je crois, je suis déjà passé à maître reprises sur ces mêmes plateaux ici. Et je vous avais déjà dit et prédit, si le gouvernement ne fait pas attention, nous allons à la dérive. Nous allons à la dérive. Je ne suis pas un prophète de malheur. Nous allons à la dérive.
Mais alors, parce qu'on n'est pas prophète de malheur, est-ce qu'on peut pas, aller vers la solution? Vous l'avez dit, il faut réqualifier des emplois. Il faut aller aussi vers la révision du code du travail. Et pourquoi pas organiser un cadre permanent du dialogue social. Mais il y a un autre élément. Je vois, il y a un auditeur qui nous écrit là sur notre téléprompteur. Il mentionne la question de la convention collective. Aujourd'hui, nous avons des entreprises para-étatiques où vous avez un directeur, par exemple, de la SNEL, qui gagne mieux que les directeurs à la fonction publique. Pourquoi ne pas prendre l'administration publique et la mettre sous la convention collective?
Donc, papa, c'est ce que je dis ici. Là, on risque maintenant de voir les gens se diriger vers un secteur. Mon problème, c'est l'équivalent, les correspondants.
L'équivalent.
Je suis directeur dans tel secteur et voilà ce que doit toucher un directeur dans tel secteur, peu importe le cadre.
Tout à fait.
C'est un peu ça. Et l'équivalent de ces directeurs-là, si je suis dans un autre secteur, ça sera le même salaire, bien que là-bas, excusez-moi les termes, je dis par exemple que non, je suis dans l'armée ou dans la police. Voici ce que peut toucher un colonel. Mais quel est l'équivalent du grade de colonel dans la fonction publique?
Peut-être
un secrétaire général. Et voilà ce que doit toucher le secrétaire général. Je ne pense pas que non, les gens vont se diriger, par exemple, dans ce secteur, au détriment d'un autre. Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous propose, mon schéma est si simple. On réqualifie les emplois, on échelonne les emplois, on donne des grades, on codifie les emplois. Et on sait que non, lorsque je m'engage dans ce secteur, voilà ce que je peux toucher à la fin et chercher à sécuriser ma famille. Voilà, en tout cas, je partage le même avis.
Merci beaucoup, Boni. On ne saura pas vous retenir le plus longtemps. Je crois que on va vous libérer. Merci d'avoir accepté d'être venu.
Je suis vraiment à l'air.
Voilà, je sais.
Le mieux serait d'organiser ça. Si je suis libre, là.
D'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. On poursuit l'émission avec les autres. Merci beaucoup, Boni, de votre disponibilité. Alors, on va écouter rapidement Docteur Mamie et ainsi que les autres qui vont nous rejoindre. 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081-890-49-69 ou au 081-890-63-30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit apa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre réaction par rapport à ce sujet?
Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord dire que la grève radicalisée des médecins de la République démocratique du Congo reste fondée et aussi c'est légal parce que vous savez, ces professionnels de santé doivent vivre par rapport à tout ce qu'ils font comme travail. Et lorsque quelqu'un travaille et qu'il n'est pas payé, il n'est pas bien traité, et surtout avec la pandémie que nous avons ici, c'est quelque chose qui laisse à désirer. Parce que si nous nous voyons comment, dans d'autres sujets, comment les professionnels de santé sont traités par rapport à notre pays, il y a quand même des soucis énormes. Des soucis énormes dans le sens que nous voulons bien le développement, mais nous ne tenons pas compte de ceux-là qui s'occupent de la santé. Parce que si ces professionnels-là, les médecins, y compris même les infirmiers, commencent à aller de manière intempestive dans des grèves, c'est un mauvais signe, surtout pendant que nous sommes dans cette pandémie, nous sommes pendant cette crise, cette endémie de COVID-19. Et voilà pourquoi, à mon sens, je trouve que les gouvernants de la RDC ont toute obligation, parce qu'on ne peut pas parler d'un pays sans que le système sanitaire soit supporter soit quelque chose qui entre dans des préoccupations de la République. Parce que si, dans ce système sanitaire, et qu'il y a toujours c'est les cadets des soucis des politiques, ça laisse à désirer. Vous pouvez faire un peu la rétrospective de tout ce qui se passe ici. Et fort de ces éléments, parce que notre système sanitaire n'est toujours pas parmi les préoccupations des politiciens, et à tout moment, lorsque un politicien tombe malade, connaissant bien que ce système sanitaire n'est pas supporté,
voilà,
et que
Marie-Paul, les professionnels de santé sont négligés. Oui, Marie-Paul. Marie-Paul, oui. Que faut-il faire pour qu'il y ait la paix sociale, pour éviter des grognes sociales à répétition?
Alors, pour éviter ce que on doit payer les professionnels de santé. Et tout ce que les médecins demandent, c'est légal. C'est légal, c'est
tout ce que les infirmières réclament, c'est légal. Tout ce que les magistrats réclament, c'est légal. Tout ce que les enseignants réclament, c'est légal. C'est légal également.
Oui, tout ça, c'est légal parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas minimiser les uns pour favoriser les autres. Parce que nous sommes quand même dans une république. Tous ces services-là, ce sont des services publics de l'État. Et voilà pourquoi on peut prioriser les uns et on marginalise les autres. Donc, ce traitement sélectif n'est pas une bonne chose dans une république. Parce qu'aujourd'hui, les médecins ne réclament pas autre chose que les droits reconnus par la Constitution. Et le pays est là dans l'obligation, non pas seulement de favoriser les politiciens et que de favoriser les autres. Et cette façon de faire des choses de manière sélective, c'est ce qui laisse à désirer. La grogne sociale aujourd'hui, c'est par rapport au fait que nous n'avons pas la justice distributive. Mmh. Est-ce que ce n'est pas l'argent qui manque dans ces pays? Si dans d'autres pays, dans le monde politique, les gens sont bien payés, mais pourquoi dans le monde professionnel, on doit commencer à négliger les gens? Ça, c'est mauvais, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même de l'argent dans les pays. Tout ce que les politiques sont en train de détourner, et qu'on pouvait bien gérer ça, ça peut résoudre tous ces problèmes. Et si nous prenons d'ailleurs ce qu'on paye aux médecins par rapport à leur traitement, ça, ce n'est pas quelque chose de trop signifiant. Ce n'est pas quelque chose qui cadre au SMIC que les autres touchent ailleurs. Et si dans des petites choses comme ça, il y a toujours des négligences et que à tout moment les gens sont pour qu'ils reçoivent leurs droits, ils doivent aller en grève parfois. Il y a des grèves qui sont sabotées par des politiques. Et nous voulons quoi dans ces pays? Est-ce que si voilà. Le pays avance, c'est toujours des grèves en grève?
Ça et risque de paralyser les choses.
Comment notre système sanitaire
comme l'a dit d'ailleurs notre premier invité,
pour que nos politiciens, nos gens commencent à être traités ici et que les gens qui s'occupent de santé, les professionnels de santé, puissent se donner corps et âme pour pour pouvoir sauver les âmes, pour pouvoir mener des recherches qui sont indouanes et pour pouvoir résoudre les défis sanitaires que nous avons dans le pays. Voilà autant de défis. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est de la mauvaise volonté. Il faut qu'on paye tout le monde et que chacun le soit par rapport à sa couche et non favoriser les uns et discriminer les autres.
Merci beaucoup Marie-Paul. On ne va pas aller plus loin avec vous. On s'arrête là parce que vous avez épuisé vos minutes. Merci beaucoup Marie-Paul. On va prendre Maître Edmond. Maître Edmond, vous êtes avec nous en Bandaka. Bonjour Maître Edmond.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
À ce niveau du débat, moi je pense que c'est un devoir du gouvernement de pouvoir assainir l'enveloppe salariale de tous les agents de l'État. J'ai même suivi mon ami Marie-Paul de Kisangani. Je pense que c'est le gouvernement, en fait, doit assainir ses domaines salariales. C'est-à-dire qu'augmenter les salaires pour tous les secteurs. Mais je pense que le droit de réclamation n'est pas un droit qui est collégial, c'est un droit qui est personnel. Aujourd'hui, les médecins, hier, nous avions vécu la grève des infirmiers. Aujourd'hui, nous avons la grève de médecins. À l'époque, il y avait aussi des magistrats qui avaient grévé, les professeurs d'université et consorts. Je pense que c'est un droit personnel, un droit qui n'est pas collectif. Donc, c'est à chaque secteur de pouvoir réclamer. Mais je pense que les différentes grèves là, ça donne un mauvais présage pour le gouvernement congolais. Je pense que lorsque le gouvernement était investi, il a été question de pouvoir améliorer les sociales des Congolais. Et dans l'amélioration des sociales, c'est d'abord pouvoir améliorer l'enveloppe salariale de chaque agent de l'État. Et c'est vraiment une honte pour un gouvernement à chaque fois. Vous avez 2 mois, 3 mois et vous avez une grève. Ça ne donne pas une bonne humeur. Et à plus forte raison, les médecins ne peuvent pas gréver, les militaires ne peuvent pas gréver, les infirmiers, les professeurs. Ce sont les secteurs pionniers de tout un État démocratique. Moi, je pense que c'est vraiment, il est de bon droit que le gouvernement puisse répondre urgemment aux différentes revendications de médecins, sinon ça sera impur. Nous avons un problème, nous avons des fléaux qui nous frappent ces derniers temps, par exemple la pandémie, le coronavirus. Et hier, nous avions eu les infirmiers qui ont grévé. Aujourd'hui, les médecins, ça risque de poser un problème. Pour moi, je pense que j'encourage les médecins à poursuivre leur grève.
Et d'ailleurs, les infirmiers ont même abandonné leur grève. Pas que la solution n'a pas été trouvée. Le gouvernement n'a pas pu résoudre ces problèmes comme l'entendaient les infirmières. Bon, voilà. Donc, que cela les tienne. Aujourd'hui, ce sont les médecins. Demain, nous redoutons que ce soit les enseignants. Après 2 mois, ça sera la rentrée scolaire. Ça risque de poser encore problème. Ils vont réclamer Mboudi. Ils vont réclamer les salaires sous d'autres formes parce qu'il y a déjà des dialogues qui ont été organisés avec le gouvernement. Bon, est-ce que les Warriors vont-ils réserver des réponses idoines par rapport à toutes ces revendications? Wait and see. Merci beaucoup, Maître Edmond. Alors, on revient à vous, Docteur Mamie, avant de vous libérer, parce que vous êtes médecin, vous êtes la présidente de la Ligue de Femmes au FCD. Quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres?
Tout le monde qui a parlé a raison, mais nous sommes déjà déçus parce que nous sommes à la 3e semaine de la grève. C'est que déjà les gouvernements proposent aux médecins. Ce n'est même pas un dixième de ce que réclament les médecins.
Combien? Parce que ça, c'est 30 000 francs congolais.
Il y avait une réunion entre les banques syndicales et les gouvernements, les ministres du budget, les premiers ministres et les ministres de la santé. Mais on propose de donner au troisième trimestre d'augmenter 200 000 francs pour les médecins internes. Et puis la troisième, les quatrième trimestre, je crois ajouter 120 000 francs pour les médecins internes et puis d'autres revendications telles que les transports, les logements, c'est là on va intégrer ça dans la loi de finances de 2022 alors que ça fait déjà plus de 4 ans, en fait, si on tient compte de la troisième année aujourd'hui depuis que le gouvernement est en place, ça c'est presque deuxième ou troisième fois que nous revenons à la charge pour revendiquer les mêmes histoires. On nous dit toujours qu'on va remettre ça à la loi des finances de l'autre année, et puis l'année passe,
qu'est-ce
donc les problèmes demeurent. Donc, tel que mes prédécesseurs, les autres intervenants ont dit, les problèmes restent les mêmes. On doit uniformiser les systèmes salariales pour tout le monde, parce que ce sont les infirmiers, demain c'est les professeurs, encore les médecins, les magistrats, tout le monde va revenir à la charge. Si jamais on satisfait les médecins, demain ce sont les infirmiers qui vont revenir encore à la charge. Pendant que il y a un monsieur qui avait dit, en fait, les salaires même entre les ministères de la fonction publique diffèrent.
Si vous avez disparité pour
tout total de finances, un chef de bureau touche plus que au même grade le médecin.
C'est celui qui est à l'environnement.
Vous comprenez que le système salarial est très, très très mal conçu pour notre pays. En tout cas, le gouvernement doit tenir compte de ça, parce que sinon on va revenir toujours aux mêmes revendications, des grèves en grève, pendant que nous on grève, on a plutôt de la population, ce sont des gens qui meurent et tout ça. Aujourd'hui c'est la grève sèche avec des polarisations et tout ça, mais en tout cas ça nous enchante pas le fait que le gouvernement aille vite, mais il est en train d'aller pas des tortures avec des promesses qui ne satisfait personne.
Quel regard avez-vous quand on donne aux magistrats, après une courte négociation, 1 600, mais aux médecins, on vous renvoie au budget 2022
À 200 000 francs pour le... Et on nous envoie
au budget
2022, qui est d'ailleurs incertain.
Et quel est le sentiment que vous avez? Quel est le sentiment que vous avez? Est-ce que vous avez le même sentiment comme les auditeurs l'ont dit tout à l'heure? Il s'agit là de l'injustice sociale.
Ben oui, c'est la justice sociale. Mais quand il s'agissait des députés, par exemple, avec les députés, pourquoi ça va vite?
Il y a même des jeeps.
Si les députés ne travaillent pas, il n'y aura pas mort d'homme. Mais quand les médecins ne travaillent pas, il y a mort de la population. Mais maintenant, on travaille pour le social de la population ou on travaille pour les politiciens. Donc, on doit, en tout cas, les politiciens doivent savoir, en tout cas, ils sont là pour l'intérêt de la population.
Mais vous êtes politique également.
Ils sont venus pour arranger le social de la population. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, en tout cas, la situation demeure, rien ne change. Et la mauvaise foi demeure, parce que un médecin qui réclame, vous lui demandez qu'il rentre travailler pour 200 000 francs congolais, qui n'est que 100 $, je ne sais pas qu'est-ce que eux, politiciens, en tant que ministre, premier ministre, si on leur donnait aujourd'hui 100 $, qu'est-ce qu'ils vont faire avec?
Ben alors, parce que vous êtes en grève, et vous n'avez pas l'intention de revenir, et il n'y a même pas de service minimum.
Non, il n'y a pas de service minimum. Il y a eu préavis de grève. Jusque le 22 juin, le gouvernement n'avait rien fait. Rien, même pas recevoir les bons syndicats pour négocier. Et quand on a commencé la grève, on a commencé avec le service minimum. Le gouvernement n'a rien fait. Rien. Et en fait, on évolue progressivement. Jusqu'à aujourd'hui, on est à la dépolarisation, à la polarisation plutôt de la grève, c'est-à-dire que ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est l'hôpital Roi Baudouin et la clinique quinoise qui va recevoir juste les urgences pour 2 jours, et puis après, ce sont des autres hôpitaux. Mais comment la population saura qu'aujourd'hui, les urgences ne sont reçues que par tel hôpital de Kimbansé ou à Makala ou à Ndjili? Donc, vous comprenez un peu que la situation n'est pas très bonne du tout.
Avant de vous libérer, docteur Mami...
une semaine, et puis après, ce sera la grève sèche. Il n'y aura même pas les urgences.
Voilà.
Et les gouvernements n'évoluent pas.
Avant de vous libérer, docteur Mami, et nous rappelons que vous êtes aussi politique, hein, parce que quand vous évoquez la question de politique, vous êtes médecin, vous êtes aussi président de la Ligue de femmes au FCD.
Oui, ben on fait la politique effectivement pour aller et puis essayer de faire quelque chose, parce que ce sont les politiciens qui nous dirigent aujourd'hui. Nous sommes là en train de regarder comment ils nous dirigent, comment la politique est très mal, très très mal gérée dans ces pays. Si nous faisons la politique, c'est pour que nous-mêmes, en tant que médecins, vivons les réalités des médecins. Aujourd'hui, si je suis secrétaire général à la santé, où je suis ministre de la santé, je crois que j'agirai différemment que tous ces gens qui viennent, qui n'ont jamais travaillé dans la fonction publique, qui n'ont jamais travaillé dans les services publics de l'État.
on a un œil un peu différent. C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons la politique pour essayer de changer les choses. Bon, je sais que les politiciens congolais, quand ils arrivent là-bas, je pense, je ne sais pas
ça si serait peut-être votre cas également.
Ils arrivent au gouvernement, ils souffrent d'amnésie ou quoi. Mais en tout cas, je pense que les choses doivent changer. On doit mettre les gens. Prendre quelqu'un qui a de l'expérience, qui a travaillé dans ce secteur, pour diriger ce secteur-là, parce qu'il connaît les réalités de ce secteur-là. Que nous prendre les gens, par exemple, qui viennent de l'Europe, qui n'ont pas l'expérience du milieu, et il vient, il a d'autres priorités, il a sa façon de voir les choses, c'est là... C'est pratiquement une fracture entre la réalité et ce que le secteur vit réellement.
Voilà. Alors, docteur Mami, on va vous libérer dans quelques instants. Mais lorsque notre invité, le premier d'ailleurs, parlait de la révision du code du travail, êtes-vous d'accord? Et aussi d'organiser un cadre permanent de dialogue social?
Oui, oui, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que à un certain moment, les politiciens, quand ils viennent, nous connaissons un peu les réalités, les politiciens ne sont vraiment pas informés de la vraie réalité.
La vraie réalité. Etc.
Si on organise ce genre d'échanges d'une façon permanente, je crois que les dirigeants
ça ramènera la paix sociale
dans la vraie situation, et je crois que les choses pourront un peu bouger, parce que là nous sommes en train de faire des surplaces, c'est pas bon pour le pays.
Docteur Mami Mujinga Bukasa, vous êtes la présidente de la Ligue des femmes au FCD. FCD, c'est le Front
des Congolais pour la démocratie, parce que cher à Pierre Kangou Diambaye.
Voilà, et vous êtes médecin au niveau de l'hôpital de Kitambo.
Okay.
Merci c'est beaucoup, ça. Docteur Mami, d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous et expliquer les choses, comment ça évolue entre le gouvernement et les syndicats, les banques syndicales de médecins. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup, J.R. Ngembo.
081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous poursuivons Parole aux auditeurs avec vous, Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Quelle est votre réaction, Jérémy?
Bonjour, monsieur JR, bonjour également à l'invité. Je pense que les revendications formulées par... le médecin et tous les corps est très pertinente dans la mesure où, parce que vous savez que nous traversons un moment de crise sanitaire, ça c'est connu de tous, et lorsque ils ont fait leur démarche et n'ayant pas été satisfaits, alors ils revenaient donc de plein droit pour, dans les chefs du gouvernement de pouvoir étudier tous les contours possibles en ce qui concerne tout ce qui œuvre dans les comptes de l'État. Vous savez que, sinon, là où nous sommes en train d'aller, nous risquons d'assister à une grogne répétitive qui va amener l'État congolais à être dépassé par les événements. Alors, à ce stade, je pense qu'il faut prendre à bras le corps cette situation, parce que vous savez que le médecin, ce sont des gens qui ont la vie des gens, parfois qui étudient tout ce qu'il faut autour de la vie de personnes. Alors, il revient à l'État congolais de pouvoir aussi revoir étudier donc, c'est-à-dire voilà, les registres sociaux doivent être mis en... C'est ainsi que je me dis, il fallait peut-être que le ministère ait en charge le social, concomitamment avec celui qui a la charge de santé, devrait se mettre ensemble pour...
C'est une question transversale. Oui. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, on va prendre Jean Kimbuya, que vous connaissez, ancien secrétaire général des CIECO. Aujourd'hui, il est secrétaire général du Conseil syndical des services publics et privés. Jean Kimbuya, vous êtes avec nous?
Bien.
Jean Kimbuya, vous êtes avec nous?
Je suis en ligne, oui.
Voilà. Quel regard portez-vous sur les différentes grognes sociales qu'on a enregistrées ça et là?
Oui, mais en tant que syndicaliste qui défend les intérêts des travailleurs, et je pense que cela relève d'un manque d'anticipation de l'État. Gérer, c'est prévoir. Au niveau du Conseil syndical des services publics et privés, en date du 1er mai, qui est la journée rouge pour les travailleurs, nous avons rappelé en tant que force de proposition les différentes revendications des forces sociales, aussi bien dans les privés que dans les publics. Fort malheureusement, le gouvernement, à travers les différents ministères, a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses, mais en termes de concrétisation, on se rend compte que sur les plans sociaux, il y a une forte précarité. Les médecins, il y a grogne chez les médecins, et chez les infirmiers aussi, il y a eu des soucis. Et là, je me rends compte que vraiment, il y a un véritable problème. Or, en tant que syndicaliste, nous allons évaluer l'action sociale du gouvernement en termes d'indicateurs avant l'avènement de ce gouvernement et jusqu'à la date d'aujourd'hui, trois mois après.
C'est le centième jour.
Oui. Alors, il y a un souci. Je me dis qu'il y a un souci. Le gouvernement doit prendre les taureaux par les cornes pour essayer de régler, de juguler cela. Aussi bien l'enseignement supérieur et universitaire, où on a promis régulariser la situation de nouveaux docteurs à thèse. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Au niveau d'autres ministères, je prends par exemple au niveau des services centraux de l'EPC, c'est la même chose où il y a eu un flou en rapport avec les paiements des primes, en rapport avec les salaires, il y a une mafia autour des questions salariales. Au niveau du privé, déjà il y a un problème de SMIC de 7075 francs congolais, jour n'a jamais été appliqué. Et là, on voit que le gouvernement est attentiste. Nous voulons bien accompagner le gouvernement, mais si le fonds social se met en ébullition de manière intégrale, ça va hypothéquer l'action du gouvernement des Warriors que nous appelons des guerriers. Voilà la première analyse que je fais par rapport à l'attentisme du gouvernement par rapport à cette question. Mais nous nous rendons compte qu'il y a une volonté en termes de déclaration d'intention, mais dans les faits des actes, ce n'est pas des concrets.
Ce n'est pas le cas.
En tout cas, il y a c'est un goulot d'étranglement pour la réussite de l'action gouvernementale dans sa globalité.
Alors, vos prédécesseurs ont fait quelques propositions, notamment la réqualification des emplois, ce qui veut dire qu'il faut échelonner des emplois, qu'un directeur, qu'il soit à Kinshasa ou encore au Kwango, qu'il touche les mêmes salaires. Et même au niveau des ministères, qu'on ne sente pas la différence au niveau des primes, par exemple.
Oui, mais déjà, il n'y a pas de politique salariale hein, au niveau du public. Hein. Il y a un véritable souci. Et en termes d'emploi, et si on se réfère au BIT, on a à peine 1 500 000 travailleurs, ça c'est toujours discutable, au niveau du secteur public, les fonctionnaires, et 600 000 dans le secteur privé, ça fait 2 millions 100 par rapport à la profession active de plus ou moins 32 millions, et la majorité c'est dans le secteur informel, 85 à 90%, et il y a une disparité de primes, il y a une disparité de salaires, en tout cas, l'État doit mettre les bouchées doubles et réduire son train de vie, le train de vie des institutions. On ne peut pas vivre dans un monde où il y a une vie sociale à double vitesse. Les uns au paradis et les autres en enfer. Parce que les peuples d'abord ne doivent pas demeurer un vain slogan. Nous, syndicalistes, nous avons pour mission de défendre uniquement les intérêts et les devenirs des travailleurs. Aussi bien dans la société que dans le milieu du travail. C'est notre façon de contribuer. Mais nous continuons à croire, nous croyons que, en tout cas, cette émission va être relayée et ça va rappeler le gouvernement à ses missions régaliennes par rapport au social et à l'économique. Donc, je pense.
Alors, comment avez-vous réagi?
Une politique salariale au niveau du secteur public, la fonction publique, et les salaires de tout le monde, comme à l'époque de Kassavubu, doit être connu dans les journaux officiels de la République pour qu'on parle vraiment de la justice distributive. Et les richesses qui sont créées au pays. Quelles sont ces richesses? Comment sont-elles redistribuées? Nous voulons continuer l'action gouvernementale, mais il faut un véritable dialogue social. Nous, syndicalistes, nous ne vivons pas à comprendre le gouvernement dans son attentisme. Et nous ne lions pas notre sort en tant que syndicat à celui du gouvernement. Mais nous voulons que le gouvernement marque des pas, mais retourne la santé au souverain primaire qui se recrute parmi les fonctionnaires et parmi les travailleurs du secteur public.
Jean Kimbouya, secrétaire général du Conseil syndical des services publics et privés. Merci de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission et d'avoir accepté d'échanger quand même avec les autres auditeurs. À très bientôt, Jean Kimbouya. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ces programmes. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.